nous allons découvrir un autre univers. Grâce à Bruno Tessarek, qui est écrivain fantôme. Il a vendu plus d'un million de livres, il a prêté sa plume à de grandes personnalités françaises. Bruno Tessarek raconte l'envers du décor. C'est un entretien qui a été enregistré en octobre 2018, une interview de Margot Delpierre, montée et mixée par Thomas Langlin.
Son nom ne vous dit rien, pourtant cet écrivain a vendu plus d'un million de livres. Bruno Tessarek est l'auteur de nombreux ouvrages, dont de gros succès de librairie, mais la plupart du temps, il écrit pour les autres. Il a été l'écrivain fantôme, le prête-plume de Nicolas Hulot, Jean Lassalle, Laurent Gérard et bien d'autres personnalités médiatiques. Avec Jean Rochefort, l'une de ses belles rencontres, ça a failli se faire. Comment a-t-il débuté dans ce drôle de métier? Comment travaille-t-il jusqu'à se glisser dans la peau d'un autre? Bruno Tessarek nous raconte l'envers du décor.
Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre.
Bonjour Bruno Tessarek.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres. Le dernier, L'atelier d'écriture, date de 2015 aux éditions Jean-Claude Lattès. Ça, c'est votre bibliographie officielle. En réalité, vous avez écrit et publié beaucoup plus de livres en tant qu'écrivain fantôme.
Oh oui, j'ai effectivement sous mon nom écrit une dizaine ou une douzaine de romans ou d'essais littéraires, ou effectivement ce livre, L'atelier d'écriture, qui a la prétention, la prétention de donner des conseils d'écriture, puisque j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture par ailleurs. Mais en tant que co-auteur ou écrivain fantôme, comme on dit, j'ai dû en écrire une trentaine.
Comment vous êtes devenu écrivain fantôme?
Par le plus grand des hasards, parce que un éditeur chez lequel je publiais, j'avais publié un roman et j'en préparais un deuxième, il y a donc 17-18 ans, un jour m'a proposé de faire ça. Et c'était assez drôle parce que il n'avait pas lu mon premier roman qui s'appelle La machine à écrire et qui racontait à l'époque, alors que je n'avais jamais fait ce métier, ce qu'était la vie d'un écrivain fantôme. Alors j'ai éclaté de rire en lui disant « Mais tu as lu La machine à écrire ?» Il m'a dit « Non, pourquoi ?» Et c'est donc arrivé par le plus grand des hasards.
Et on peut parler de la citation qui est
En exergue.
Dans votre livre, en oui. exergue de La machine à écrire.
Oui, la phrase de Colette « Tout ce qu'on écrit finit par devenir vrai ». Et je ne pouvais pas imaginer en écrivant, en choisissant cette phrase, qui au demeurant ne colle pas tellement au contenu du livre. Parce que qu'est-ce que je voulais dire par « tout ce qu'on écrit finit par devenir vrai » pas beaucoup de rapport avec le travail d'écrivain fantôme, si on réfléchit bien. Mais il y avait peut-être quelque chose de prémonitoire, parce que le personnage que j'ai présenté dans mon roman est un peu devenu vrai en devenant moi-même dans ce second métier.
Quelle a été votre première commande?
Alors, j'ai d'autant plus de mérite, sans vouloir m'envoyer de fleurs, d'avoir continué dans ce métier, que la première commande a été juste épouvantable. C'était, il est mort il n'y a pas très longtemps du reste, c'était Patrick Henry, le meurtrier de ce gosse à Troyes dans les années 70. Un des premiers rapts d'enfants suivis avec demande de rançon, sauf que Patrick Henry avait tué le gosse. Et donc il avait fait à l'époque, on est au début des années 2000, en 2001, 2002, quelque chose comme ça. Il avait accompli déjà une vingtaine d'années de prison, facile. Pour mémoire, il a sauvé sa tête grâce à Robert Badinter qui avait été son avocat, parce qu'à l'époque du procès de Patrick Henry, il y avait encore la peine de mort. Et évidemment, il y avait un déchaînement de l'opinion, des médias, de l'opinion disons, il y avait un déchaînement contre lui et tout le monde s'attendait à ce qu'il soit condamné à mort et exécuté. Il ne l'a pas été, il a été condamné à la perpétuité grâce à une plaidoirie extraordinaire de Badinter contre la peine de mort justement. Contre le principe même de la peine de mort, dans laquelle finalement il parlait assez peu de Patrick Henry, parce que le personnage ne l'intéressait pas, c'était la cause. Le sous-entendu, c'était même quelqu'un d'aussi monstrueux que ce gars-là ne doit pas être exécuté.
Et vous l'avez rencontré alors ?
Alors, il est sorti de prison une première fois, en libération conditionnelle, et un éditeur a eu l'idée de lui demander un livre, et a eu l'idée de me demander à moi. Alors, le cheminement, je ne sais pas si c'est intéressant de vous le raconter, mais en deux phrases. Il se trouve que j'ai été dans une première vie avant d'être écrivain, prof de philo. Et à cette époque, j'animais des ateliers de philosophie en maison d'arrêt. Donc, je connaissais un peu le milieu de la détention. Ça faisait des années que je faisais ça. Et cet éditeur, sachant ça, m'a dit, puisque tu es entre guillemets un peu familier de l'univers des détenus, est-ce que ça t'intéresserait de faire ce... J'ai dit oui. J'ai donc fait ce livre avec Patrick Henry que j'ai rencontré. À l'époque, il habitait à Caen.
Et pourquoi c'était épouvantable, cette première commande ?
Alors, ça a été doublement épouvantable. Comment dire ? D'abord parce que le personnage... Bon, c'est un peu méchant de parler de quelqu'un qui a disparu et qui après a payé lourdement puisqu'il est retourné en prison, était quand même très étrange. Derrière une apparence sympathique et urbaine, qui avait toujours été la sienne du reste, parce qu'il avait baratiné la presse en disant que c'était scandaleux au moment de l'affaire. Il se pavanait devant les caméras en disant « mais il faut absolument arrêter ce monstre, etc. » C'était lui-même, donc un drôle de personnage. Et ça restait malgré les années de prison, malgré les études brillantes qu'il avait faites, qu'il avait suivi en prison, qui lui avait permis d'accumuler des diplômes époustouflants, du reste, genre maîtrise de maths, maîtrise d'informatique, enfin, il avait fait des études incroyables. Le personnage restait insaisissable et quand même tortueux, sinon ténébreux. Donc, première épreuve, face à face, et puis j'avais quand même en face de moi quelqu'un qui avait assassiné un gosse d'une manière sordide. C'est pas très facile. Alors, je sais bien qu'il y a les principes d'un côté et la vie de l'autre. Les principes, c'est quelqu'un qui a purgé sa peine, doit être considéré comme, etc. N'empêche que nous, on remet pas mal de boue. Donc, c'était quand même éprouvant. Et puis, il se trouve que le livre a été terminé. Le livre était sous presse. Et alors même que le livre était en impression, Patrick Henry s'est fait pincer à la frontière avec un coffre rempli de cannabis ou de shit, je ne sais pas quoi, ce qui l'a réexpédié en prison. Et là, ce qui a été la deuxième épreuve, c'est que l'éditeur, contre toute logique, a maintenu la sortie du livre, qui ne voulait plus rien dire, puisque le thème du livre, c'était de dire, même quelqu'un qui a commis un meurtre épouvantable peut s'amender et se transformer en prison. La preuve était telle que, malheureusement, le travail d'amendement et de réparation n'était pas allé à son terme, puisque 3 mois après être sorti de tôle, il replongeait pour une histoire, certes pas criminelle, mais quand même assez lamentable. Et moi, j'avais un peu dit qu'il ne fallait pas sortir le livre. Et ils l'ont sorti quand même. Et comme Patrick Henry était en tôle et que l'éditeur ne voulait pas trop se mettre en avant, c'est moi qui ai été un peu interviewé à droite à gauche et qui m'en sont... Parce que mon nom, là, cette fois-ci, était sur la couverture. Et c'est quand même moi qui m'en suis pris un peu plein la tête.
Ça a fait scandale.
Ça a fait scandale. Et le livre, du reste, a été un flop. C'est une des rares fois en France où des libraires, pas un ou deux ou trois, ont refusé de mettre le livre en vente, de l'acheter dans leur librairie.
Ça commençait bien votre carrière d'écrivain fantôme.
Ça commençait bien, comme vous dites, oui. Mais enfin, dans écrivain fantôme, il y a fantôme. Donc on s'habitue un peu au surnaturel et au mystère. Après, Dieu soit loué, ça s'est arrangé. Mais je n'ai pas pu écrire, ni pour moi, ni prêter ma plume à quelqu'un d'autre pendant au moins 2 ou 3 ans.
Hein. Ah oui, comme Blacklisté.
Pour moi-même, dans mon travail de romancier, je n'ai pas pu écrire pendant 4 ans.
Vous parlez de Patrick Henry. Est-ce que ça fait partie des difficultés du métier d'écrivain fantôme d'être obligé de collaborer avec des personnalités qu'on n'aime pas franchement ?
Alors, après cette pénible première expérience, je me suis juré de ne plus jamais accepter... D'abord, je ne pensais pas qu'on m'en proposerait d'autres, parce que comme je m'étais fait allumer de tous les côtés, ça j'y reviendrai dans quelques instants, si vous le voulez bien. Mais je me suis juré à cette époque de ne pas accepter... vous savez, la célèbre formule, ne faites jamais rien contre votre conscience. Enfin, je me suis dit non, je me relancerai pas dans une histoire pareille. Donc après, j'ai eu affaire à des co-auteurs ou à des personnalités pas toujours faciles dans le quotidien, mais qui n'avaient pas, si vous voulez, un passé aussi trouble ou aussi dérangeant. Donc, non. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous ai dit, j'y reviendrai. Oui, alors le paradoxe, c'est que ayant traversé cette épreuve de Patrick Henry, m'étant fait allumer, mais ayant toujours revendiqué en disant, parce que j'ai fait mon boulot, j'ai essayé de faire mon boulot sérieusement, à la fois comme écrivain, puis après pour défendre le livre, j'ai quand même trouvé quelques arguments pour défendre le livre. Et les éditeurs y ont été sensibles, ce qui fait que, au bout de 1 an environ, alors je pensais que cette carrière était aussi vite finie qu'elle avait démarré d'une façon bizarre, j'ai eu plein de demandes. Parce qu'on s'est dit, ce gars-là, il est fiable. Il va jusqu'au bout. Vous voyez le paradoxe des choses. Donc c'est la difficulté de ce premier livre, la mise à l'épreuve qu'il a représentée, qui m'a permis après de travailler énormément.
Et vous avez travaillé avec des personnalités très célèbres.
Oui.
Dont vous gardez encore le secret.
Ah, ça c'est une bonne question, l'histoire du secret. Je peux vous en parler quelques instants ?
Allons-y.
D'abord, contrairement à une légende assez répandue, sur les contrats que j'ai signés, donc une trentaine de contrats, même un peu plus, parce qu'il y a des livres qui ont raté en cours de route, qui se sont arrêtés, mettons sur environ 35 contrats que j'ai dû signer de co-auteur, la fameuse clause de confidentialité, je l'ai vue apparaître très peu de fois. Pour une raison, c'est étonnant. Hein.
Alors c'est un code d'honneur en fait.
Oui, c'est cela. Et puis, c'est sympa d'employer le mot honneur, mais je vais vous dire autre chose. Le co-auteur qui reste répandre partout en disant c'est moi qui ai écrit tel bouquin, il n'en ferait plus jamais après. Donc si vous voulez, l'honneur et l'intérêt...
c'est donnant-donnant, on va dire.
C'est ça. J'ai eu des clauses de confidentialité sur un ou deux livres pour des personnalités vraiment très importantes. Pour le reste... Dernier élément sur cette notion de secret de confidentialité, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que la personne pour qui vous travaillez a souvent l'élégance de vous faire figurer dans les remerciements. Ce qui fait que même si votre nom n'apparaît pas au premier plan, il est cité quelque part. Merci à Bruno Tessarec qui m'a aidé à mettre mes mots en forme. Bon, tout le monde a compris. Donc, si vous voulez, c'est un peu le secret de Polichinelle. Mais cela dit, mis à part les gens qui ont vraiment revendiqué d'avoir que nous ayons travaillé ensemble, comprenez bien qu'il me serait bien délicat de vous faire la liste de toutes les personnes pour qui j'ai travaillé. Mais oui, des personnes ultra célèbres, oui.
Comment se passent les séances de travail ? J'ai lu dans Art Nègre, donc, qui est un roman aux accents autobiographiques, qui met en scène un écrivain fantôme, que vous deviez donc parfois les rencontrer et passer quelques heures avec les personnalités pour qui vous allez écrire les livres. Et le personnage dit à un moment, n'importe quelle vie tient en une douzaine d'heures. C'est vrai ça ?
Aussi incroyable que ce soit, c'est vrai.
La plus folle des vies, la plus remplie.
Oui. Mais si on dit ça aux personnes avec qui on travaille, ça leur est absolument insupportable. Parce que comme ce sont souvent des personnes très connues, sinon des personnalités, ils ont le sentiment que 3 semaines de travail suffiront à peine à raison de 8 heures par jour. Le maximum d'enregistrements que j'ai dû engranger, je pense que ça tourne autour d'une 20aine d'heures. Mais, je vais vous dire, dans ces cas-là, on fait durer le plaisir. Parce qu'on sent que la personne en face de vous est frustrée. Vous dites, mais j'ai encore beaucoup de choses à raconter.
Alors que vous en avez assez.
On en a assez et les gens racontent les mêmes choses. Je crois que je dis du reste dans Art Nègre que des personnalités qui ont des vies beaucoup moins intéressantes, je pense que c'est pas 12 heures. C'est
5 heures, vous dites.
Oui, je dis 5 heures, mais c'est terrible.
Donc c'est pour ne pas froisser vos interlocuteurs
Et vous ne pouvez pas faire autrement.